Je suis très content d'être avec nous à nouveau ce matin. C'est vrai que travaillant souvent avec Jean-Claude, j'ai le privilège de passer un peu, peut-être plus souvent parmi vous que pour beaucoup d'autres églises de la vie. Que venons-nous de faire il y a un instant? Reconnaître qui nous sommes, certes. Surtout confesser, même d'après les paroles de Jésus lui-même, le plus grand acte d'amour qu'on peut faire, comme il le dit, et que c'est repris aussi par Jean et à d'autres fois. N'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Nous, à la limite, on peut peut-être être appelé à donner notre vie une fois en sautant dans l'eau pour essayer de tirer quelqu'un ou sortant d'une maison en feu ou quelque chose comme ça. Jésus, puisque Fils de Dieu, a pu, lui seul, en une seule fois, donner sa vie pour tous ceux qui croient. Quelle preuve d'amour, n'est-ce pas? Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles au premier épître de Jean et au chapitre 4 à partir du verset 7 pour approfondir ce que cela représente. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire cela, mais c'est utile quand vous lisez la Bible, en ayant lu tout un livre, d'ailleurs de le lire de temps en temps d'un trait, pas juste verset ou par petit chapitre, parce que ça vous donne une perception. Si je vous demandais quel serait le mot qui résume cette lettre de Jean, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, pour ceux qui cherchent toujours, quel serait le mot qui résume le mieux 1 Jean? Amour, voilà, oui. Tout à fait. Et il faut savoir que dans cette petite lettre, il n'y a que 105 versets, vous pouvez les compter. Ça prend même pas très longtemps de tout lire. Le mot amour apparaît 18 fois et le verbe aimer 28. Donc si vous faites l'addition, ça fait quand même presque une fois tous les deux versets. Donc, ce qui est logique, du coup, quelqu'un qui a lu un Jean, le mot amour reste collé dans la tête. On parlait un peu dans la voiture en venant ce matin avec Jean-Claude. Il y a des mots qui changent de sens. Il y a des mots qui perdent le sens. Il y a des mots à qui on veut attribuer le contraire de leur sens véritable pour pouvoir faire passer une idée ou une politique, etc. Qu'est-ce que l'amour pour vous? C'est peut-être parmi les mots actuels qui ont perdu leur sens véritable. Parce que tout en étant capable d'aimer quelqu'un, ce qui est quand même le sens premier, on peut aussi aimer son chien, aimer un tableau, un film, un morceau de musique, un groupe, même tel ou tel plat, etc. Sans parler des autres utilisations différentes dans les différentes expressions de l'amour, au point où, dans un sens, ça ne veut plus rien dire, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais si vous lisez la Bible, vous savez que ça veut dire quelque chose, comme je viens de faire allusion puisqu'on vient de prendre le pain et la coupe. Voilà la preuve, donc non pas un sentiment, mais quelque chose de tangible, d'historique, de vérifiable, de l'amour de quelqu'un. Dieu, quand il dit qu'il nous aime, ne parle pas de sentiments. Dieu n'est pas assis sur son trône. Oh, qu'est-ce que les humains, ils sont bêtes, qu'est-ce qu'ils sont méchants, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, qu'est-ce que je les aime, mais qu'est-ce que je peux faire? Non. Je me demande si Dieu peut pleurer parfois, en effet, vu notre obstination, notre rébellion, nos péchés, nos bêtises. Mais un sentiment de tristesse, quand on voit quelqu'un qui s'éloigne, peut manifester l'amour, mais ça ne résume pas l'amour. Romains 5, 8 dit, Dieu a prouvé son amour pour nous comment? Non pas en nous envoyant une lettre, ou en pleurant, ou en écrivant une chanson d'amour, mais en envoyant son Fils. Et ça, lorsque nous étions encore rebelles, ennemis, pécheurs, morts dans nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. La preuve de l'amour, c'est l'action de Jésus venu, devenu homme, pour prendre notre place pour la juste condamnation de Dieu et nous donner la vie éternelle. Je pourrais faire un lien très direct. Est-ce que vous savez ce qu'est l'amour authentique? Notre thème cette année dans l'AEI, tiré d'un Jean, c'est le chrétien authentique. Et forcément donc, la question de base là-dessus, c'est mais est-ce que nous, on connaît l'amour authentique en Christ? Ou est-ce qu'on est dans un sentiment, une idée, une fausse perception? Et puis aussi important, est-ce que nous le manifestons aussi, cet amour authentique, les uns auprès des autres? Avec toute cette introduction, je vous invite maintenant à lire, non pas la seule allusion, parce que Jean, dans 1 Jean, comme j'ai dit, c'est presque tous les deux versets qui parlent de l'amour. Donc il a déjà abordé l'amour d'autres manières différentes au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3. Il en reparlera encore au chapitre 5. Mais lisons ce qui nous ramène les choses là où on est nous pour le manifester de la manière la plus pratique. Pour lire 1 Jean 4 à partir du verset 7 et pour conduire jusqu'au verset 3 du chapitre 5. Donc un petit bloc des Écritures, mais important pour comprendre. Donc 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous avons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel qu'il lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons les commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. Et puis, comme autre texte qui est assez fondamental à notre compréhension, lisons juste au chapitre... revenons au verset 7 de Jean 4. Puisque c'est une exhortation, c'est un commandement, c'est quelque chose que Jean nous écrit pour dire « faites cela parce que Dieu veut qu'on le fasse ». Verset 7, comme point de départ, mais aussi comme idée essentielle. Si vous ne retenez rien d'autre de ce matin, retenez ça. Bien-aimés, Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Je le relis, c'est tellement riche en si peu de mots. Essayez de comprendre la logique, c'est un commandement, faites cela. Faites quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Mais Jean ne met pas le point là, il explique pourquoi, ce pourquoi j'ai choisi ce passage-ci pour approfondir la question de l'amour authentique en 1 Jean. Parce qu'en un seul verset, Jean nous donne le pourquoi aussi, en plus du commandement. Car l'amour vient de Dieu, donc premièrement la source, l'amour véritable, l'amour authentique, a une seule source. C'est Dieu, même s'il y a beaucoup d'autres amours dans ce monde. Et puis deuxièmement, comment savons-nous que nous sommes des chrétiens authentiques? Une part importante de la réponse, c'est la fin de ce verset. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Voilà pourquoi l'exhortation, le commandement même, l'ordre, aimons-nous les uns les autres, est essentiel. Alors avant de développer tout ce que Jean nous dit dans ce passage, encore un peu un côté technique, pour ceux qui ont lu un peu, qui étudient, peut-être qui ont pu même approfondir d'une manière ou d'une autre dans les commentaires, vous savez qu'en grec, il y a 3 mots différents pour le mot amour. Il paraît que les Inuits ont à peu près 12 de mots pour la neige. Nous, ben, c'est la neige. Ou à la limite, ceux qui aiment le ski, il y a aussi la poudreuse. Mais pourquoi? Parce que ça ne nous est pas vital pour vivre. Par contre, quelqu'un qui vit dans la neige tout au long de l'année, c'est important de savoir quelle sorte de neige c'est. Sec, léger, fondante, etc. Donc, ils ont beaucoup plus de mots de vocabulaire. En français, c'est dommage qu'il y ait juste le mot « amour » pour décrire toute cette gamme d'utilisation qu'on a dans notre civilisation actuelle, qui utilise ce mot-là, mais qui disent tant de choses différentes. Parce que finalement, justement, un seul mot qui décrit tout ça ne dit plus rien, parce qu'il faut être plus précis. Quand Jean a écrit, et quand les autres ont écrit la Bible, surtout le parti Nouveau Testament, ils ont utilisé donc le grec, qui a déjà 3 mots, donc c'est plus riche en pensée pour amour. 2 sur 3 sont dans la Bible, le troisième n'y est pas. Pourquoi? Parce que le premier c'est Eros, l'amour érotique, qui a une place légitime pour le chrétien même, dans le couple, dans le mariage. Mais pour décrire l'amour de Dieu, ce n'est jamais utilisé. Vous avez un deuxième mot grec, philos, philéo. Ça vous dit peut-être quelque chose vaguement si vous connaissez Philadelphie aux US. Son fondateur, William Penn, c'était un chrétien convaincu. Il a voulu fonder la ville idéale. Quoi? La ville de l'amour fraternel. Parce que Philadelphie veut dire l'amour des frères. Donc c'est l'amour fraternel. Mais c'est également dans la Bible, il y a des passages où Jésus l'utilise vis-à-vis de son père et dit le père même philéo pour dire que le père a un très fort sentiment pour son enfant, pour son fils. Donc c'est et l'amour fraternel et l'amour sentiment. Et puis le troisième mot qui revient tout le temps dans la Bible, mais comme j'ai dit, que ce mot-là en grec, ou le mot ou le verbe, agapé, agapao, c'est le seul que Jean utilise dans cet épître. Et c'est ce que là, on appelle l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, on ne trouve pas ce mot, ou très très peu, en dehors de la Bible, dans les textes que les archéologues, historiens, etc. ont trouvés au 1er siècle. Au début même, ils avaient du mal à dire, mais c'est quoi ce mot-là? Quel est son sens? Parce que c'est cet amour-là avec lequel Dieu nous aime, et c'est très rare de le trouver en dehors, sauf parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui se donne sans chercher un retour. Ce n'est pas un amour sentiment du tout. Quand vous prenez par exemple, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il n'est pas en train de dire « Oh, pleurez fondez d'amour pour la personne qui est en train de vous démolir ». Non, le sentiment n'est pas dans le commandement. C'est aimer, c'est-à-dire faites ce qui est bien pour votre ennemi. Ça, ça devient possible sans être hypocrite, parce qu'on peut dire, oh, je le déteste, le sentiment, je le supporte pas, mais je peux aimer en faisant du bien. Ça, c'est l'amour dont il est question pour l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour que nous sommes appelés à manifester les uns auprès des autres. L'amour que nous sommes appelés aussi à manifester envers le reste du monde, comme ce commandement de Jésus, aimez même vos ennemis. Faites-leur du bien, justement. C'est un sujet tellement riche, le temps est limité. Mais vous lisez 1 Corinthiens 13, ce chapitre sur l'amour. Paul aussi, il utilise agapé. Et si vous détaillez surtout les versets 4 à 8, il n'y a aucun sentiment dans cette description de l'amour idéal. Ce n'est que des actions, des états d'esprit. Alors, que nous dit Jean dans ce passage pour y revenir, maintenant que j'ai pris une introduction assez longue? Jean nous donne et la description de l'amour. On l'a lu, on l'a revu. Il a manifesté son amour en ce que Christ est mort pour nous, qui est devenu plus fort même, d'ailleurs c'est dommage, on en parlait dans la voiture justement, le sens des mots. Toutes les traductions françaises ont victime expiatoire, alors que le mot que Jean utilise est plus technique, plus pointu, plus riche en sens. Jésus est la propitiation. Oui, voilà le mot barbare, c'est quoi ce truc-là? Mais un terme technique a ses mérites et son importance. Non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais la propitiation, c'est, pour utiliser le mot dans sa définition, c'est pas forcément une bonne règle, mais même le petit Larousse le fait, rend Dieu propice à notre égard. Voilà la différence. Dieu, en tant que juge, dit, le péché doit être puni. Tout homme est pécheur, tout homme est condamné à la mort éternelle parce qu'il est pécheur. Christ a payé ce prix-là sur la croix, ce qu'encore nous avons célébré dans la scène. Mais la mort de Christ sur la croix et sa résurrection fait beaucoup plus que ça. Parce qu'au lieu juste de dire, ah ça y est, plus de condamnation, j'ai rien contre les êtres humains maintenant, du moins ceux qui sont en Christ. Non, c'est plus que ça. La mort de Jésus sur la croix, cette manifestation concrète de l'amour de Dieu, rend Dieu favorable, bien disposé, déjà orienté par avance, on pourrait même utiliser le mot préjugé positif, à notre égard. Non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Ça, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, mais du coup, Dieu nous est favorable. On peut oser frapper à la porte, comme un enfant qui peut entrer dans le bureau de son père, même au boulot, et personne n'ose lui interdire ça. Pourquoi? Parce que c'est son fils, donc il ne va pas interdire l'accès. Alors que même ses subordonnés doivent prendre rendez-vous, doivent frapper, doivent attendre. Oh non, je suis occupé, je vous verrai plus. Mais l'enfant a libre accès. Quelle que soit la situation, il y a priorité pour l'enfant. J'arrête là, parce que là, ce serait toute une prédication, rien que sur cette idée-là. Mais voilà ce que Dieu a fait dans la manière de prouver son amour envers nous. D'où le fait que plus tard il dit, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que oui, si je sais que Dieu m'est favorable, entre guillemets, acquis d'avance, j'ai pas peur d'aller devant lui. Je ne tremble plus, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est quoi la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ justement? Dieu ne peut pas nous l'ôter. Donc, dire, oh là là, j'ai encore fait une bêtise là, est-ce que je vais encore être chrétien? Non, on ne perd pas. Puisque Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes, et vit éternellement pour notre justification. Donc, ça dépend même plus de ce que nous faisons une fois que nous sommes devenus ses enfants. Là aussi, je referme un peu la parenthèse, mais c'est pour comprendre toute l'étendue de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Voyons un peu verset par verset assez rapidement la suite, parce qu'il y a plus que ça que Jean nous dit. Donc, le commandement est là, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Ce qui ne veut pas dire que n'importe quel amour fait de la personne qui manifeste un amour en chrétien. Justement, quelle sorte d'amour est-ce? C'est pas le sentiment. C'est tel père, tel fils, pour l'expression tellement courante. Si nous sommes enfants de Dieu, je saute un peu dans l'ordre, mais c'est dans la pensée, c'est pourquoi Jean termine cette pensée-là au chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. C'est familial, l'amour divin. Comme on l'a lu aussi, nous aimons, c'est-à-dire, non pas nous aimons Dieu, mais nous sommes capables d'aimer tout court de cet amour agapé qui donne, qui agit, non pas le sentiment, mais le faire, parce que Dieu nous a aimés le premier. Ce qui fait qu'on peut en retour aimer Dieu, mais aussi manifester notre amour les uns vers les autres. Et la logique pousse les choses encore plus fort, parce que si nous ne le manifestons pas, non seulement on peut dire, mais on n'a pas l'amour authentique, on a une contrefaçon, on a un sentiment, on a un amour qui vient du monde et qui n'est pas le véritable, mais qui permet déjà, j'oserais vous poser la question, comment savez-vous que vous êtes réellement chrétien? Tout ce passage dit, celui qui aime est né de Dieu. Par contre, comme on l'a lu aussi, celui au chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Vous voyez la logique de Jean qui éclaire à travers toute son épître, mais particulièrement dans ce passage. On chante des cantiques, on loue Dieu. Ah, Dieu, c'est formidable. Mais j'arrête pas de, comme le sketch tout à l'heure, critiquer, maudire, médire, agir mal, faire des crasses aux autres. C'est très clair, c'est très facile à comprendre. Là, je dois me remettre en question, parce que comme Jean le dit, et la logique est là, au chapitre 5, verset 1, celui qui croit que Jésus est le Messie né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, donc nous aimons le père, on doit, normalement, automatiquement, génétiquement, j'oserais dire, aimer les autres enfants du même père. Sinon, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui n'est pas réel dans notre vie. Si j'aime Dieu, ça exige que j'aime, encore comme je dis, pas forcément le sentiment, toujours, mais j'agis avec amour envers mes frères et sœurs dans la même famille de Dieu. Et si je le dis, mais je ne le fais pas, n'importe qui peut légitimement dire, toi, tu es un menteur, tu n'es pas un vrai chrétien. Jésus lui-même le dit en premier, Jean chapitre 13, 34, 35, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je ne suis pas en train de dire, parce que Jean ne le dit pas, que la seule preuve d'être un chrétien authentique est notre façon de nous aimer les uns les autres. Mais si vous vous posez la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Jean dit dans tout ce passage, là on peut le lire, verset 16, chapitre 4, verset 16, « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Donc, comme j'ai dit, vous voulez savoir, si vous entrez dans cette description-là, ah oui, je demeure dans l'amour, c'est-à-dire j'ai l'habitude, j'y vis, je pratique, alors je suis en Dieu. Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Le moment où vous commencez à dire, mais est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Il y a très peu de réponses possibles. Le premier et le pire, c'est « Ah non, je ne le suis pas encore. » Mais là, on a aussi la réponse, c'est se tourner vers le Seigneur, croire en lui, le confesser. On peut mettre ça en question, parce que, comme on je ne vais pas prendre le temps de le relire, parce que le temps court trop vite, mais verset 12, 13, 14, c'est intéressant que j'en mets de la doctrine au milieu d'un passage sur l'amour. Pourquoi? Parce que la seule manière durable, véritable de savoir qu'on est enfant de Dieu, c'est de croire en Jésus et le confesser. Croire qu'il est mort pour nos péchés. Sans ça, on n'est pas chrétien non plus. On a beau dire, ah oui, j'aime tout le monde, mais sans croire en Jésus, c'est pas authentique non plus. Les deux doivent aller ensemble. Si, en étant enfant de Dieu, je retombe volontairement dans le péché, mon assurance d'être sauvé disparaît aussi. Donc là, on revient à la croix, on confesse, et 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier de toutes nos iniquités. Mais nous, si on est sûr d'être enfant de Dieu parce qu'on croit en Christ, que quand l'Esprit nous parle, parce qu'il témoigne, Romains chapitre 5 aussi, Romains chapitre 8 plutôt, l'Esprit qui nous est donné témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On le sait nous, mais les autres ne le savent pas. Moi, pour moi-même, je sais que je suis enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit qui m'habite a mis son sceau sur moi, me communique que je suis son enfant. Tout chrétien véritable, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est moi pour moi, ça c'est vous pour vous. Mais je vous regarde, je dis, peut-être bien, peut-être oui, peut-être non. Mais je ne peux pas le savoir par ça. Parce que c'est le témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu à chacun de nous qui sommes réellement ses enfants. Par contre, la preuve visible extérieure, c'est l'amour. Agir comme il faut, comme Jésus, en donnant sa vie pour nous. Alors, comment rendre ça concret? Comme Jean le dit dans ce passage encore, ben oui, on peut aller jusque donner sa vie pour quelqu'un. Permettez-moi une question qui peut peut-être sembler un peu bizarre. Qu'est-ce qui est plus facile? Donner sa vie, comme j'ai dit tout à l'heure, en sautant à l'eau, en entrant dans une maison en flammes, etc. Ou le donner petit à petit tous les jours? D'une certaine manière, c'est plus facile de sauter dans l'eau et peut-être on coule, mais c'est fini. Alors que, comme Paul le dit d'ailleurs aux Romains, ne devez rien à personne sauf la dette de l'amour. Pourquoi? Parce que si je suis honnête avec moi-même, et à la fin d'une journée, je dis, est-ce que j'ai assez aimé un tel? Ma réponse sera toujours, non, j'aurais pu faire encore plus. J'aurais pu agir encore quelque chose, j'aurais pu téléphoner, j'aurais pu passer, j'aurais pu, etc. On n'a jamais fini la dette de l'amour parce qu'on n'a jamais fini d'exprimer notre amour concret. Pour le rendre encore plus tangible, imaginons que, sans parler de jouer au loto ou autre chose, que vous recevez 1 milliard d'euros, comme ça, gratuitement. Qu'est-ce qui est plus difficile? Ah, le Seigneur m'a tellement béni, je vais tout donner au Seigneur. D'un coup, voilà, ça y est. C'est entré, c'est ressorti aussitôt. Ou de dire, chaque jour, je vais prendre 100 euros de ce milliard, le donner au Seigneur, le donner à quelqu'un qui a un besoin, l'investir pour le bien de quelqu'un d'autre. En faisant 100 euros de course pour quelqu'un qui n'a plus de moyens, ou etc., etc., etc. Qu'est-ce qui, dans le fond, est plus difficile? Ça semble énorme de dire, ah, 1 milliard d'euros, je vais donner d'un bloc comme ça. Mais non, c'est encore plus difficile de dire, je choisis de prendre tout ça, et un petit morceau par morceau par morceau tous les jours, parce qu'on commence peut-être à dire, ah oui, aujourd'hui 100 euros, ça y est, c'est parti pour ça, le lendemain 100 pour ça, encore. Mais le jour, oh là, j'ai une énorme facture là. Bon, ben aujourd'hui, je donne pas parce que je prends pour moi. N'est-ce pas que c'est plus difficile d'une certaine manière? Parce que la tentation permanente est de revenir sur la décision et agir autrement. Mais c'est ça l'enjeu dont parle Jean dans ce passage quand il parle de nous aimer les uns les autres. On a beau dire, ah, qu'est-ce que je vous aime! Mais qu'est-ce que je vais faire avec vous, pour vous, tout à l'heure, demain, après-demain? si c'est vrai que je vous aime, je vois sur le cadran du téléphone, oh là, c'est encore un tel qui m'appelle, au secours, Seigneur. Oh, ah oui, puisque j'aime, ben forcément je vais répondre, même si je sais que je vais passer 2 heures au téléphone du coup, ou etc. Il y a toutes les circonstances que vous pouvez imaginer personnelles. La personne qui vous casse les pieds sans arrêt, y compris peut-être même dans l'église. Un jour vous le supportez, mais aimer, comme ce passage le décrit, c'est, eh oui, le lendemain on recommence. Et encore après, et encore après. Et ainsi de suite. Ça peut aller très loin. J'ai trouvé un récit. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a occupé la Corée du Sud. C'était encore Corée tout entier à l'époque. Entre autres pays. Il y a eu, tout comme pour Nuremberg, pour les crimes de guerre nazis, ben, il y a aussi des procès pour les crimes de guerre des Japonais. Et un des procès qui avait lieu en Corée, justement, pour régler un problème, c'était qu'un jeune lieutenant japonais, très fier de lui, très imbu de, oui, l'armée japonaise est conquérante, un jour, en marchant dans la rue, un jeune, qui n'était même pas dans l'armée, il était trop jeune, lui a coupé la route en courant, mais le lieutenant l'a fait arrêter et tout de suite, il l'a battu. Donc, c'était pas un combat, c'était un crime de guerre. Donc, après la fin de la guerre, il était amené en procès pour ce crime-là parmi d'autres. Les parents de ce jeune garçon, entre-temps, sont devenus chrétiens. Ils ont assisté au procès, ils ont fait une demande insolite au juge. Qu'au lieu de le voir condamné à mort pour une atrocité pareille, ils ont demandé de l'adopter à la place du fils qu'il avait abattu. Le juge l'a accordé. Donc ce Japonais, du coup, a quitté son pays, est devenu citoyen coréen, a habité chez ce couple dont il avait tué le fils, pour prendre sa place. Je crois qu'il a dû apprendre aussi l'amour, là. Mais voilà jusqu'où peut aller l'amour véritable de Dieu. Là, c'était pas mourir en donnant sa vie. Là, ses parents ont manifesté l'amour de Christ en aimant jusqu'au bout leur pire ennemi. En le prenant à la place, en le prenant dans leur maison, en faisant de lui l'héritier, le fils, l'objet de tout leur amour dans tous les sens du mot. Et nous pouvons être capables d'aimer comme ça. Parce que justement, comme l'amour n'est pas un sentiment, cet amour biblique, c'est pour ça que ça peut être le commandement. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et je reviens à la fin du verset 7 encore pour conclure. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. On ne peut pas faire l'équation Dieu est amour, amour est Dieu. Non. L'amour est un des attributs de Dieu, pas le seul. Mais c'est l'attribut le plus concret, le plus tangible, parce que, comme on l'a déjà dit encore, mais je le répète, Dieu a prouvé son amour en Jésus-Christ, venu mourir pour nous, prendre notre place, notre condamnation, nous donner la vie, l'héritage, la réconciliation, la paix, toutes ces choses. Les premiers chrétiens l'ont tellement compris, c'est d'ailleurs pour ça que à Antioche, quand on ne pouvait plus l'appeler une secte juive parce qu'il y avait plus de non-juifs dans l'église que de juifs, c'est là qu'on a donné le nom chrétien qui signifie petit Christ. C'est là aussi dans les premiers chapitres des Actes que les non-croyants, même s'ils persécutaient les chrétiens, ne pouvaient pas faire autrement que constater « Ah, comment ces gens-là, ils s'aiment les uns les autres ». Une dernière citation, parce que ça en dit long, et si on ose nous demander, nous, est-ce que le monde autour de nous nous voit de cette manière-là? Je vous laisse avec ça en conclusion. Un autre grec non chrétien du deuxième siècle, donc il montrait que l'Église a continué un fort témoignage d'amour pendant longtemps, Lucien de Samosate, c'était un satiriste, qui se moquait dans toutes ses pièces de beaucoup de choses, et dans l'une des pièces qu'il a écrite, La mort de Pérégrinus, donc la mort du pèlerin, déjà le titre, il se moque du chrétien, il se moque, mais il ne peut pas nier la réalité, donc je vous lis tout simplement le texte que lui, il a écrit à l'époque. En se moquant, mais qui est tellement puissant comme témoignage. Et je vous laisse avec cela. Ces malheureux se figurent qu'ils sont immortels et qui vivent éternellement. En conséquence, ils méprisent les supplices et se livrent volontairement à la mort. Leur premier législateur leur a encore persuadé qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète qu'ils ont en ces paroles. Ils se moquaient d'eux, mais ils ne pouvaient pas nier la réalité de leur amour, la réalité de leur foi, même en le rejetant. Quand nous sortons du culte ce matin, que peut dire, que va dire le monde sur nous? J'espère que c'est « Ah, combien ils s'aiment les uns les autres aussi !» Parce que nous avons ce commandement répété si souvent par le Seigneur lui-même, par Jean repris ici. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Agissons dans cet amour-là et Dieu sera glorifié. Nous aurons cette assurance devant Dieu. Mais je suis certain aussi que par cette manifestation concrète, accompagnée de l'annonce de l'Évangile, on verra un fruit immense pour la gloire de Dieu.